Chers auditeurs de Radio Silence, je suis à Rome pour rencontrer notre pèlerin à pied de Fatima en Russie, dont vous avez déjà entendu plusieurs fois sur cette antenne. Et je suis justement devant lui, ici à l'Ordo de Tonico, une maison d'hôte de l'Ordre des Chevaliers Allemands, anciens de Jérusalem. Alors, mon cher Jean Lescuyer, tu es déjà arrivé ici à moitié chemin et je voudrais qu'on puisse t'interviewer deux fois. Une fois un peu aujourd'hui sur l'aspect pratique de ce pèlerinage qui nous étonne tous et dont beaucoup se demandent même comment ça peut être réalisé. Et une deuxième interview peut-être demain, après l'audience chez le Saint-Père, sur l'aspect spirituel de ce pèlerinage, si tu es bien d'accord.
Oh, absolument.
Oui. Alors, dis-nous en deux mots un peu le cadre général de ce pèlerinage, le kilométrage, le temps prévu, juste un peu pour situer qu'est-ce que c'est.
Oui, donc j'ai quitté Fatima le 13 septembre à 19h30 et tu as fait les premiers kilomètres avec moi, n'est-ce pas? Et c'était une merveille. Je me suis arrêté, je ne sais plus comment s'appelle la ville où je me suis arrêté, et c'était 2h du matin. Première nuit, j'ai vu un bureau allumé. C'était le bureau d'un candidat politique, sympathique, plutôt de droite, ils m'ont offert un café. Je leur ai expliqué que je pouvais dormir par terre. Ils ont pensé que c'était mieux d'appeler la police. La police m'a laissé dormir sur une chaise dans un bureau. Voilà.
Donc, au commissariat.
Première nuit.
L'hôtel, c'était le commissariat de
voilà.
Ce village. Non, d'accord. Donc, mais le cadre général, c'est donc d'aller tout droit vers où?
Voilà. Alors, l'axe que j'ai choisi, c'est un axe diagonal de Fatima, Fatima Barcelone. Barcelone Perpignan.
Ouais.
Le sud de la France, vers Narbonne, Montpellier,
oui.
Aix-en-Provence, et le Nice, après Nice, Menton. Monaco, où j'ai été candidat pour visiter le prince, les gardes m'ont conduit, ils ont noté ce que je faisais, et ils m'ont dit que le prince m'écrirait un mot pour eux, mais le mot n'est pas encore arrivé.
Donc, soit c'était le au revoir pour la France, et puis c'était la partie Italie.
La partie.
Jusqu'ici, Rome. Par quelle ville?
Oui. Alors, la partie Italie, beaucoup de choses ont changé depuis mon pèlerinage précédent, il y a presque 20 ans.
Ouais.
À ce moment-là, C'était les prontos socorso, la Croix-Rouge, ceux qui vont vers les accidentés, qui étaient extrêmement bienveillants et chez lesquels j'ai toujours trouvé quelque chose à manger ainsi que la possibilité de passer la nuit, ne fût-ce sur un brancard dans une ambulance, n'est-ce pas? Là, la Croix-Rouge, sans doute, il y a un nouveau concept et il refuse toute collaboration, toute aide. Hein. Bon, mais donc je suis passé à Gênes, à Genova, hein, où j'ai été accueilli par les moines capucins notre Nostra Signora dei Monti, hein, qui ont été magnifiques. Donc, de là, j'ai continué vers Pise. Et à Pise, bref, j'en parlerai tout à l'heure. Pise à Florence, d'où je suis allé à Sieci, chez Monseigneur Vac, et l'Institut du Christ Roi, souverain prêtre.
Ah, au séminaire de Griciliano.
De Griciliano, oui, où j'ai été extrêmement bien conforté, reçu. C'est vraiment une étape extrêmement secourable.
Oui. Si je comprends bien, le pèlerinage n'est pas fini maintenant ici à Rome, mais continuera selon le dessin initial,
hein, oui,
jusqu'à la Russie et presque comme messager de la Vierge Marie. On va en parler dans la deuxième partie de l'interview. Mais pratiquement, dans la partie que tu as déjà faite, qui est pratiquement la moitié du voyage,
oui.
Pour décrire un peu, comment ça, pour le manger, par exemple, tu n'as pas de porte-monnaie?
Non, je n'ai pas de porte-monnaie, oui. Ce serait vain d'en avoir, puisque je n'ai pas de monnaie.
Et comment tu manges?
Depuis mon départ, en 3 mois, j'ai dû passer un peu plus d'une semaine sans manger, hein, mais ce n'est pas grave, comme j'ai passé environ une semaine sans avoir d'abri pour la nuit.
Mais tu me demandes des sandwichs ou comment?
Non, je demande, quand je vois une ménagère avec un morceau, avec un panier plein de victuailles, je demande un morceau de pain, et le plus souvent, on me donne un morceau de pain, et on me donne un morceau de fromage, un morceau de quelque alimentation.
Mais hein. Je pense qu'il y a aussi des moments exquisites où tu as un bon déjeuner, quelqu'un qui te invite, ou non?
Absolument, absolument. C'est arrivé diverses fois, heureusement, c'est très chaleureux.
Des gendarmes, je crois.
Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est une anecdote intéressante. Je marche sur les plus petits chemins possibles. Ah. Quelquefois, un petit chemin débouche sur un chemin plus grand, et puis sur un plus grand encore, et une fois, ça débouchait sur une autoroute, alors que je ne m'en étais pas, je n'avais aucune conscience. Hein. Et donc, il y a le GIGN espagnol, n'est-ce pas, qui arrive avec une voiture blindée et 6 ou 7 GIGN espagnols, et il me double un
peu. Il te braque.
Abruptement. Ils descendent du véhicule, sans armes cependant, mais ils rouspètent, ils disent, mais monsieur, vous êtes sur l'autoroute, il ne faut pas marcher là.
Autostrada, autostrada.
Et je réponds, ah, je suis navré, je ne savais pas que c'était une autoroute, et je suis un pèlerin. Alors, hop, là, ils s'attroupent autour de moi, ils sont tout réjouis, ils me demandent d'où je viens, où je vais, pourquoi, etc. Ils sont enthousiastes. Je leur dis, ben, je n'ai pas d'argent. Et ils sortent tous des billets de leur poche. Et je leur dis, non, je ne veux pas d'argent. Oui. Alors, ils parlent entre eux. Et puis, ils me disent, montez dans le véhicule blindé. Et ils m'amènent dans un restaurant. Ils commandent un repas. Et ils ont même commandé un grand sac qui contenait des aliments pour au moins 2 ou 3 jours. Formidable. Et nous avons fait des photographies et ils continuent à m'écrire de temps d'accord. en temps.
Mais ils ont quand même interdit l'autoroute.
Hein. Ah oui, oui.
D'accord. Et pour le logement, donc, il y a sûrement aussi des pires moments et des meilleurs moments.
Ah. Tu peux nous raconter un tout petit peu de ce côté-là.
Oui, ma dernière aventure difficile, c'était à Pise. Oui, mais alors il faut que je dise que il y a Caritas, n'est-ce pas, ce que nous appelons le secours catholique. Caritas est partout surprenant. Il n'y a jamais les mêmes protocoles, il n'y a pas de repères. C'est incohérent. Chacun a sa règle, chacun a son usage.
Ces heures d'ouverture.
Oui, ces heures d'ouverture, c'est permanence. Tout est adapté pour des gens qui sont pauvres, mais absolument pas pour des pèlerins. Pour avoir accès à Caritas, il faut se signaler avant 10 heures du matin, d'une façon générale. Et avant 10 heures du matin, un pèlerin est sur le chemin et il ne peut pas aller à Caritas pour dire est-ce que je peux dormir ce soir.
Donc, tu as refusé ce soir-là.
Voilà, oui, mais c'est très habituel. C'est très habituel.
Et t'as dormi où, alors?
Donc à Pise. Alors, d'une façon très habituelle, il y a la marche dans la journée, mais il y a aussi la marche le soir pour aller à la recherche d'un peu de nourriture, pour aller à la recherche d'un lieu pour passer la nuit.
Pour le froid, c'est ça déjà.
Voilà. Et donc, à Pisa, une de mes dernières étapes difficiles, à Pisa, j'arrive et je cherche l'adresse de de Caritas. On me donne une adresse. Et à cette adresse, c'est fermé. Et quelqu'un me dit, ah mais il faut aller à tel endroit qui se trouve à 2 kilomètres plus loin, n'est-ce pas? Et il faut chercher. Et j'arrive à 2 kilomètres. Et là, c'est fermé, ce ne sera ouvert que demain matin. De là, je vais à la police. Et la police me dit, eh bien, il faut aller vers la gare de Pise. Il y a un établissement qui accueille les pauvres et qui contient 150 places. Je m'y rends. Mais c'est fermé parce que ça n'ouvre qu'à 19h30 ou 20h. Il y a là devant la porte un homme qui a un pied nu. Il faisait 0 ou moins 1 degré ou moins 2 degrés. Il y avait un homme avec un pied nu, à l'autre pied une chaussure très abîmée, oui. Et cet homme, je le mets debout et je me rends compte qu'il marche extrêmement mal et qu'il est en tout petit état de santé. Et à ce moment-là, il y a un homme qui arrive avec une bicyclette sans lumière sur le trottoir en roulant la bicyclette et qui a failli me renverser. Mais cet homme était un employé de Caritas, de cette maison qui contient 150 pauvres. Et je lui demande de prendre soin tout de suite de ce pauvre que j'avais essayé de secourir. Et il dit, ben non, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'heure. Et il revient demi-heure après, vêtu avec un habit
professionnel.
Voilà. Oui. Il y a à ce moment-là des pauvres qui surgissent d'un peu partout, mais peut-être entre 10 et 20 pauvres, hein, alors qu'il y a 150 places dans sa maison. Hein. Et lorsque j'ai voulu entrer, il me dit, non, non, pas vous, vous ne pouvez pas entrer. Je n'ai demandé aucune explication, mais je me suis mis tout de suite en route vers la gare des chemins de fer, où j'ai négocié avec la police la possibilité de dormir dans un couloir. Et voilà où j'ai passé la nuit à Pise.
Oui, ça me rappelle ce que tu nous avais déjà raconté chez Beketsch, au temps de Beketsch, sur Radio Courtoisie, quand tu avais expliqué comment la soirée de Noël c'est avec les prêtres qui t'ont fermé les fenêtres et ils voulaient pas te recevoir et où tu as dormi aussi à la gare en prenant la place d'un clochard qui t'a viré à minuit de Noël la gare de
Carrare. Non, de Massa.
Ah, de Massa. Massa. En Italie toujours.
Massa, oui, c'est de Massa est aussi une ville qui est à 10 kilomètres au sud-est de Carrare et qui exploite le même marbre.
Tu avais des mauvaises rencontres aussi. On t'a piqué les choses ou même les habits, je crois. Hein.
À l'occasion de mon premier pèlerinage, oui, mais cette fois-ci, non, je n'ai pas eu de...
Heureusement. Oui, oui. Et au sac, j'ai vu ton sac il y a un panneau.
Oui.
Marial.
Oui.
Quel est le message?
Ce panneau qui mesure 20 centimètres par 30 environ, indique que je suis en route de Fatima vers Rome et vers Moscou pour rappeler le message qui fut transmis par la très sainte Vierge Marie aux enfants de Fatima, qui demandait de dire au pape qu'il fallait consacrer la Russie. C'est ce que dit le petit panneau que j'ai derrière mon sac. C'est un frère de l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame qui a confectionné ce petit panneau et qui me l'a traduit dans divers langages,
pour
les prochains pays.
Ah non, c'est un peu une démarche missionnaire aussi, puisque tu parles là aux gens qui passent ou qui te doublent par l'arrière.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui t'abordent
aussi? Oui, c'est assez fréquent. Et il y a des gens qui lisent ce qu'il y a écrit derrière mon sac, et puis qui me doublent et qui m'interpellent et qui me proposent un billet de monnaie, et je leur dis que je n'en veux pas, qu'ils aident un autre pauvre.
Et ils te laissent un bonbon et c'est tout.
Oui, c'est ça. Mais ils sont quelquefois ils reviennent et me portent quelque chose à manger.
Ou ils t'orientent aussi vers une adresse.
Ça peut arriver.
Oui. Alors donc ici à Rome, bon, c'est la ville sainte. C'est une étape importante de ce pèlerinage et cette étape fait même partie du message de la Sainte Vierge.
Bien sûr.
C'est le pape qui doit, etc.
Oui.
Et c'est donc Rome et Russie qui sont nommés par la Vierge Marie. Donc pour toi, c'est important. On ne sait pas comment ça va se passer demain. C'est l'audience générale du mercredi, mais il y a quand même des gens qui arrivent à parler au pape en étant proche de la
rue
où il rentre. On va essayer, mais la dernière fois, je crois déjà, tu avais pu rencontrer le pape. C'était, je crois, Jean-Paul II, non?
C'est ça.
Et tu as pu un peu parler avec lui.
Oui, complètement. Magnifiquement, puisque le pape Jean-Paul II m'avait dit, alors mon pèlerinage précédent, n'est-ce pas, c'était pour à l'occasion du 900e anniversaire de l'entrée des premiers croisés dans Jérusalem, et le pape m'a tout de suite dit, quand je lui ai parlé du 15 juillet 1999, il a tout de suite identifié le projet. Il m'a dit, c'est une très bonne chose, nous avons réfléchi dans l'Église nous avions pensé qu'il fallait célébrer ce pèlerinage, mais il y a tant de choses à faire que nous avons choisi des objectifs plus proches.
Oui, et peut-être aussi des voix non concordantes pour dans le style ne parlons pas des choses qui fâchent, n'est-ce pas?
Oui.
Ils ont à l'époque décidé de rien faire. Hein,
c'est ça. Ils ont décidé de ne rien faire.
Mais il était intéressé quand même par
extrêmement. Extrêmement intéressé. Et il a noté sur son petit carnet que le 15 juillet 1999, et il avait à prier pour moi, et il m'a dit, donc, s'il vous plaît, pensez que quand vous entrerez dans Jérusalem, le 15 juillet 1999, vous devez penser que je suis avec vous, et que je chemine avec vous, et que j'entre dans Jérusalem avec vous.
C'est très beau. Il avait même pris ton bourdon, je crois.
Oui, 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 oui. Il avait mon bâton de pèlerin dans la main et il a marché avec, n'est-ce pas, et il m'a dit voilà comment. Je marcherai avec vous.
Oui, il voulait être pèlerin. Alors, je me souviens que peu après, il a programmé un pèlerinage au monastère Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï. Hein.
Oui.
Il n'était pas à pied, il était en avion, mais les derniers mètres, il les a fait avec un bâton de pèlerin pour être pèlerin. Et je me demande si tu en étais pas pour quelque chose de cette démarche-là.
Je ne le suis pas, mais il avait vraiment été très cordial, très enthousiaste.
Oui, au retour, je pense, tu as même fait la visite pour faire rapport, n'est-ce
voilà.
pas? Un an plus
voilà.
tard ou deux ans plus tard.
Voilà, voilà. voilà.
Oui. Ah, c'est magnifique. Bon, écoute, Jean, je te souhaite la bénédiction du bon Dieu et de la Très Sainte Vierge Marie, pour tout ton pèlerinage et particulièrement pour demain, pour pouvoir peut-être rencontrer le pape avec quelques mots sur ce pèlerinage et sur le but principal de ce pèlerinage qui le concerne. Bon, alors à demain et que Dieu te bénisse.
Allez, merci Vini et que le bon Dieu te bénisse et qu'il bénisse l'UNAC et chacun de ceux qui y prennent part.
Et Radio Silence. Au revoir, chers auditeurs.
Radio Silence. Voilà. Oui.